Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, mercredi 24 juin 2020, journée aussi chaude qu'hier, avec des températures qui vont monter jusqu'à 33 voire 34 degrés dans l'après-midi. Ça devrait continuer de chauffer comme ça pendant encore les quelques jours à venir, avec des nuages quand même à partir de vendredi et des risques d'orage même. Mais pour l'instant, il fait beau, alors profitons-en. Au programme de l'émission du jour, on commencera par aller faire un tour du côté d'un prestigieux domaine viticole. On part au château du Moulin à Vent, à Romanèche-Thorin, avec comme guide Édouard Parinet pour nous parler des journées portes ouvertes qui auront lieu ce samedi, journée intitulée Allons en vigne. Le prof Patrick sera là pour analyser comme chaque semaine les conséquences économiques de la pandémie au niveau national et international. On découvrira ensuite les ateliers de céramique de Martine Mérieux à Jarnes. Après les pages d'information de 13h, on parlera cinéma avec Vincent Pourageau de Cinérama comme tous les mercredis. Georges Botton sera là pour sa rubrique quotidienne Mais la 11e. Et on terminera l'émission avec des lycéens du centre scolaire Notre-Dame, Angelina, Victoire, Marceau et Clémentine. Ils seront avec nous pour parler un petit peu du confinement et du déconfinement du point de vue des étudiants, comment des jeunes de 15 ans ont pu vivre cette période des plus particulières. Voilà le programme de l'émission du jour. Mais avant de commencer et de partir au château du Moulin à Vent, chaque année, il y a lieu habituellement le festival Jazz in Moulin à Vent. Cette année, l'événement a dû être annulé. Et c'est bien dommage parce que la programmation y est toujours excellente. L'année dernière, par exemple, il y avait Alani. Et c'est donc l'occasion de l'écouter tout de suite pour commencer cette émission en musique avec le titre Cha-la-la, tout simplement. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être à notre écoute, voici Alani.
When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me, your words they showed me. Guys, all you told me really was a lie to me. Darling, you hurt me,
La très talentueuse chanteuse Alani que l'on vient d'entendre sur Calade avec le titre Chalala.
Ensemble sur Calade.
Et oui, nous sommes ensemble sur Calade et tout de suite on retrouve Édouard Parinet, propriétaire du château du Moulin à Vent. Bonjour.
Bonjour.
Alors on vous reçoit aujourd'hui par téléphone sur Calade pour nous parler plus particulièrement de ces journées portes ouvertes qui auront lieu ce samedi à Lons-en-Vigne au château du Moulin à Vent à Romanèche-Thorin. Mais d'abord, j'aimerais un petit peu mieux connaître ce domaine. C'est un lieu historique, on peut le dire, non ?
Oui, tout à fait, c'est un lieu historique. Merci déjà merci pour votre invitation sur votre radio. Effectivement, Allons-en-Vigne samedi prochain, samedi 27, c'est l'occasion de découvrir Moulin-Vent et plus particulièrement notre domaine viticole Château du Moulin-Vent qui comme vous le disiez est un lieu historique puisque la vigne à Moulin-Vent est présente depuis l'époque romaine, le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Ça remonte à loin, mais c'est quand même important de le souligner. Ouais. Et puis, le domaine viticole du château du Moulin-Vent, lui, existe au moins depuis 1732. La cave voûtée qui se trouve juste en dessous du château, elle date probablement du 17e siècle. Depuis 300 ou 400 ans, du vin a été fait sur ces grands terroirs de sable granitique de Moulin-Vent au château du Moulin-Vent. Et nous serons très heureux de pouvoir proposer à la dégustation et à la vente le dernier millésime du château, le millésime 2018, ainsi que quelques millésimes plus matures. Je pense notamment à quelques 2011 ou quelques 2015 sortis fraîchement de nos caves. Donc voilà.
Et oui, domaine historique. Alors il y a un château au centre de tout ça, mais autour, évidemment, il y a un large domaine viticole avec des sols différents. Il y a une grande richesse, j'ai l'impression, dans ce domaine-là.
Oui, tout à fait. Vous faites bien de le mentionner. Moulin-Vent, donc c'est l'appellation en fait commence au niveau du village de Romanèche-Thorin pour la partie la plus basse des vignes de l'appellation Moulin-Vent. Et puis plus on se rapproche des monts granitiques à l'ouest, les fameux monts du Beaujolais, plus on se rapproche du granit, de la source granitique qui fait la qualité, on va dire, depuis très longtemps des sols et des vins de Moulin-Vent. Alors, c'est vrai qu'en prenant cette petite route qui remonte vers les monts du Beaujolais, on aperçoit déjà très distinctivement le Moulin-Vent qui est monument historique de France, qui date de 1550, juste derrière le château du Moulin-Vent, donc à 200 mètres derrière le Moulin-Vent. Donc on est vraiment tout proche de l'emblème même de l'appellation. Et puis, comme vous le disiez, Moulin-Vent, c'est le seigneur des crus, effectivement, mais c'est aussi une appellation très très riche, très variée. On compte sur les 600 hectares de vignes de l'AOC Moulin-Vent 69 lieux-dits. C'est dire la diversité de terroirs qu'on peut y trouver. Et notre production au château révèle en partie cette diversité avec quelques sélections parcellaires. Donc issus de certains lieux-dits de l'appellation qui sont naturellement des productions, des cuvées en plus petite quantité et qui cherchent justement à faire valoir cette diversité et cette qualité de terroir que nous avons au domaine.
Et outre le terroir dont vous pouvez profiter, il y a aussi le choix d'une agriculture qui s'oriente vers la viticulture biologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ?
Oui, le choix, c'est le choix en fait d'une viticulture de qualité pour tout simplement une production de vin de qualité. Nous, au domaine, je travaille en famille avec mon père notamment au domaine et puis avec Brice Lafond, notre directeur d'exploitation. Nécessairement, pour révéler la qualité des terroirs et leur diversité, il faut, je pense, avoir une approche à la vigne et au chai qui soit la plus biologique, la plus naturelle, je dirais, possible, pour révéler pour être transparent, je dirais, par rapport aux différents sols que nous avons à Moulins-en-Vent. Donc, il est vrai que depuis maintenant 5 ans, plus aucun intrant chimique n'est utilisé dans la vigne, donc plus d'insecticides, plus de pesticides. Tous les traitements réalisés au domaine sont bio. C'est un travail qui se prolonge ensuite au cuvage avec des cuvaisons qui sont relativement longues, sans macération carbonique avec une utilisation du soufre qui est très, on va dire, très limitée, en tout cas la plus limitée possible pour la bonne conservation du vin et la conservation de la qualité des arômes du vin et leur origine par rapport aux différents lieux dits. Oui.
Et justement, vous nous parlez de conservation du vin. Il me semble, je suis pas un grand œnologue, un grand connaisseur, que vous produisez spécialement ce qu'on appelle des vins de garde. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'on peut décider qu'un vin va mieux se garder qu'un autre. Comment est-ce que ça se dirige, ça, ou c'est naturel?
Écoutez, c'est une très bonne question. Non, ça ne se dirige pas. On est évidemment très dépendant de la qualité de chacun des millésimes. Donc, comme dans toutes les régions viticoles, certains millésimes sont plus aptes à créer des vins de garde que d'autres. La première chose à mentionner par rapport à la garde des vins, c'est avant tout la qualité des sols et la qualité des raisins qu'on vendange en septembre ici à Moulins-en-Vent. C'est vrai qu'à Moulins-en-Vent, comme son nom l'indique, hein, l'environnement est peut-être très venteux et quand les vents soufflent peu de temps avant les vendanges, au mois d'août ou début septembre, ces vents chauds et secs concentre et assèche les raisins de Gamay et donc participe à la création, je dirais, de petits raisins plus concentrés. Une autre grande caractéristique de Moulins-en-Vent, notamment par rapport aux autres crus du Beaujolais, c'est qu'on est sur des sols très sablonneux, granitique comme je disais, mais avec beaucoup d'oxyde de fer notamment et de silice. Et l'oxyde et la silice vont aussi contraindre énormément la vigne de Gamay et donc l'encourager à produire des plus petits raisins qui, une fois vinifiés, vont donner des vins avec plus de complexité, plus d'ossature, plus de matière, tout en gardant la fraîcheur et l'acidité naturelle du Gamay. Et c'est cet équilibre global entre la matière, la complexité et en même temps la fraîcheur et l'acidité qui vont permettre d'avoir des vins de garde quand les millésimes le permettent. Et en l'occurrence, samedi, pour les gens qui viendront à nos portes ouvertes à Longs-en-Vigne, nous pourrons donc déguster le 2018, quelques bouteilles du millésime 2015 et du millésime 2011 qui ne sont plus à la vente mais qu'on met à la dégustation exceptionnellement pour cette journée. Et ces trois millésimes, je l'espère, sauront convaincre ou montrer le potentiel de garde et la maturité magnifique que les vins de Moulins-en-Vent acquièrent avec un petit peu de temps.
D'accord, donc c'est plutôt quelque chose qui est permis grâce à, si j'ai bien compris, au sol, aux conditions du terrain. Justement, ces journées portes ouvertes à Longs-en-Vigne, vous nous en parlez, ça aura lieu dans le château, dans l'enceinte du château. C'est un lieu que vous ouvrez habituellement au public, non, pour la dégustation, des visites peut-être du domaine?
Alors oui, tout à fait. Le domaine est ouvert à la dégustation et à la visite de façon quotidienne, je dirais, idéalement sur rendez-vous. C'est toujours bien de nous passer un petit coup de fil avant, histoire que l'on puisse s'organiser. Nous, c'est vrai que nous avons à cœur eh bien forcément d'expliquer Moulin à Vent, Château de Moulin à Vent, de faire goûter nos vins, notamment pour nos amis et les locaux, les personnes qui se trouvent aux environs de Mâcon et dans le Nord Beaujolais notamment. D'un point de vue éno-touristique, nous cherchons aussi à créer des événements, on va dire, originaux. Nous avons depuis 4 ans, organisé un concert de jazz, Jazz in Moulin à Vent, c'est le nom de l'événement, qui a lieu fin mai. Alors cette année, en raison du Covid, l'événement n'a pas pu avoir lieu, naturellement. Et puis, cette année, c'est la première année, même si cela fait longtemps qu'on songeait à ces portes ouvertes, c'est la première année qu'on va ouvrir les portes du domaine pour la dégustation du nouveau millésime, et en espérant que les vins convaincre les gens qui viendront nous voir.
Et alors, comment ça va se passer cette journée? C'est une après-midi autour de visite du château, de dégustation, et une soirée plutôt musicale et festive, c'est bien ça?
Oui, exactement. Alors en fait, la journée va s'organiser autour de deux principaux moments, je dirais. À partir de 15h, nous vous accueillerons dans la cour du château du Moulin à Vent pour la dégustation des vins du domaine. Nous avons la chance d'avoir le domaine de Montbourgeot également, domaine emblématique du Jura, basé à l'Étoile, qui fera également goûter quelques Savagnins, Chardonnay, Poulsard et Trousseau. Donc ça permettra aussi à nos visiteurs de goûter autre chose que du Gamay et du Chardonnay du Mâconnais. Donc ça, c'est à partir de 15h jusqu'à 19h. Donc là aussi, tous les vins seront à la dégustation et aussi disponibles à la vente, aussi pour les vins de notre ami jurassien. Et puis ensuite, à partir de 19h, nous aurons une soirée, une collation, je dirais, une soirée toujours dans la cour du château. Nous avons la chance de pouvoir compter également sur le Family Jazz Band qui nous jouera quelques airs très sympathiques dans la cour du château pour accompagner tout ça. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rassembler les gens, de profiter aussi de cette fin, de ce déconfinement progressif pour se remettre un petit peu de baume au cœur, profiter d'une belle journée ensoleillée avec des jolis vins et un moment de détente et de plaisir dans la cour du château. Ouais.
Et on en a besoin en ce moment de ces moments de détente et de plaisir. Vous avez raison, Édouard Parinet. Donc rendez-vous le 27 juin au château du Moulin à Vent à Romanèche-Thorin pour cette journée Allons en vigne. Merci beaucoup de nous avoir présenté cet événement et votre domaine.
Écoutez, non, merci. Merci à vous pour le temps que vous me donnez sur votre antenne. Et donc, effectivement, à partir de 15h, juste derrière le Moulin à Vent, donc faut prendre la petite route qui monte vers les monts du Beaujolais, château du Moulin à Vent. On sera très heureux de vous avoir parmi nous et de vous faire découvrir nos vins et profiter de cette belle journée ensemble.
Et puis on retrouve, j'ai oublié de le préciser, mais toutes les informations sur votre site internet châteaudumoulinavent.com et puis sur votre page Facebook aussi, sur les réseaux sociaux.
Exactement, réseaux sociaux, donc Facebook Château du Moulin à Vent, sur le site internet. Et puis si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à nous joindre directement au domaine au 03 85 35 50 68. Mais de toute façon, ces informations sont également disponibles sur le site. Donc nous sommes disponibles et là pour vous accueillir samedi prochain.
Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Édouard Parinet. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis une belle journée pour Allons en vigne.
Eh bien, merci à vous. Très belle journée à vous également et bonne écoute sur Radio Calade.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
On va se quitter avec Hugh Coltman, qui est programmé au festival Jazz in Moulin à Vent, qui était programmé il y a 2 ans. Et on l'écoute avec son excellent titre « It's your voodoo walking ». One, two, three, four.
body and soul. My hands still sticky and my head's eyes cold. Sugar tea sour and my salt tea sweet. I would've laid down but I just can't sleep. Is it your voodoo working? Is it your voodoo working? Round and round the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. Is it your voodoo working?
Voodoo working.
Is it your voodoo? And I can't get enough. Well, slow down, baby, you are going too fast. Love is voodoo and it just can't last. I cried last night and the night before. Long hours and my eyes are sore. Is it your voodoo working?
Excellent, Hugh Coltman avec It's Your Voodoo Walking. On a beaucoup parlé vin dans la partie précédente de cette émission avec notre invité. Je me dois quand même de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération, bien sûr. On va parler économie tout de suite avec le prof Patrick.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et tout de suite, on retrouve le prof Patrick qui, chaque semaine, analyse pour nous les conséquences de la pandémie.
Bonjour Mathieu, salut les auditeurs. Les conséquences économiques, Mathieu, hein, d'accord. Après, oui. Les autres conséquences, c'est pas pour moi. Donc, on a présenté ensemble donc les plans des États pour contrer les effets de la crise du Covid-19 sur l'économie. On a vu qu'ils s'étaient massivement endettés pour soutenir et relancer l'activité. On a vu la semaine dernière, par contre, le plan de la Commission européenne pour contribuer, je dirais, à sortir l'économie de la difficulté. En gros, ce plan, c'est un emprunt solidaire, mais qui doit être encore validé par les pays membres, c'est ce qu'on avait vu. Et donc, semaine dernière, je t'avais promis, Mathieu, que nous parlerions du deuxième grand acteur de l'Union européenne, qui est donc la Banque Centrale Européenne. Sauf que c'est très compliqué, Mathieu. On arrive là dans une zone où ça va commencer à être compliqué. On va commencer à avoir mal un peu aux neurones. Il faut donc que je prenne le temps d'expliquer ce qu'est la Banque Centrale Européenne, quel est son rôle, etc., etc. Alors, comme son nom l'indique, la Banque Centrale Européenne, c'est l'organisme qui a le rôle d'une banque, mais la banque des banques, en quelque sorte. En fait, sa mission principale, c'est de gérer la quantité d'argent qui circule dans la zone euro. On appelle ça la masse monétaire. Si tu te souviens, il y a quelques semaines, on avait parlé de la philosophie qui imprègne la politique économique de l'Union européenne. Cette philosophie allemande, c'est l'ordolibéralisme. Eh bien, pour répondre aux critères de l'ordolibéralisme, la Banque Centrale Européenne est une institution indépendante. Ça veut dire qu'aucun État de la zone euro ne peut lui imposer de prendre telle ou telle décision. Elle est indépendante dans ses décisions. Donc, en fait, ce qu'elle fait, elle accomplit sa mission conformément à ses statuts. Et ces statuts, ils disent quoi? Ils disent que sa seule mission, c'est de maintenir dans la zone euro une inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix, inférieure à 2% par an, mais le plus près possible de 2%. Il ne faut pas que ce soit à 0%, sinon là, on a un problème. J'y reviendrai.
Il faut qu'il y ait une inflation constante dans les prix.
Ouais, constante, mais qui ne dépasse pas 2%, mais qui ne soit pas trop basse non plus. C'est ça, sa seule mission officielle qui est inscrite dans ses statuts. Je vais quand même te dire d'autres trucs sur la Banque Centrale Européenne. Par exemple, je vais t'informer que la Banque Centrale Européenne a le pouvoir de créer de la monnaie. Mais pas n'importe quelle monnaie, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les pièces et les billets. C'est elle qui crée les pièces et les billets de l'euro. Pour contrôler l'inflation, comment fait-elle? Eh bien, elle doit veiller à ce que la totalité de la masse monétaire qui circule dans la zone euro soit pas trop importante par rapport à la quantité totale de biens et de services qui sont à vendre. C'est en fait un rapport entre des biens et des services à vendre et l'argent disponible pour les payer. S'il y a trop d'argent par rapport aux biens et services à vendre, eh bien en fait, ça va générer des augmentations de prix, donc de l'inflation. Donc, elle doit trouver les moyens de contrôler la quantité de masse monétaire qui circule. Alors, je vais faire un tout petit retour en arrière d'une dizaine d'années. Je vais remonter à la crise grecque de 2010. Après la crise grecque de 2010, en fait, la situation économique de la zone euro est restée très fragile pendant plusieurs années. Et le patron de la Banque Centrale Européenne, qui a été nommé en 2010, qui s'appelle Mario Draghi, qui est un Italien, il a, voyant ça, décidé de mener une politique monétaire de relance économique pour pouvoir soutenir l'activité économique. Alors tu vas me dire, mais ce n'est pas son boulot de soutenir l'activité économique, son boulot c'est que de s'occuper de l'inflation. Mmh. Ce n'est pas faux. Le problème c'est que si on est dans une situation de récession de façon trop prolongée, mécaniquement ça fait baisser l'inflation et ça la ramène l'inflation à un niveau très dangereux, c'est-à-dire vers zéro, voire moins. Et donc, une politique de relance monétaire, une politique monétaire de relance, ce n'est pas non plus une hérésie puisque ça permet en fait d'atteindre un double but, à la fois relancer l'activité et lutter contre la baisse dangereuse de l'inflation, qui, dans ces années-là, est tombée à zéro et même est tombée dans la déflation dans les pays d'Europe du Sud, il faut le savoir. D'accord. Donc c'était vraiment une vraie menace. Alors comment fait-elle pour faire cette politique de relance monétaire? Eh bien, elle doit faire en sorte, parce qu'attention, elle n'a pas le droit d'imposer des décisions à d'autres acteurs que je vais citer maintenant. Elle doit uniquement inciter. Alors les autres acteurs, par exemple, c'est les banques commerciales. Les banques commerciales, elles sont censées prêter de l'argent aux particuliers, aux ménages et aux entreprises. Pour que les banques commerciales aient du succès dans leur tentative de faire des prêts aux ménages et aux entreprises, le mieux, c'est que leur taux d'intérêt soit le plus bas possible. Et justement, pour que les banques commerciales puissent proposer des taux d'intérêt le plus bas possible, la Banque Centrale Européenne fixe ce qu'on appelle son taux directeur, au taux le plus bas possible, puisqu'il est carrément à zéro depuis plusieurs années. Ce taux directeur, en gros, c'est le taux auquel les banques commerciales viennent emprunter des liquidités à la Banque Centrale Européenne. D'accord ? En gros, c'est le coût d'achat, on pourrait dire, pour une banque commerciale. Il faut savoir que les banques commerciales, quand elles prêtent de l'argent à leurs clients, elles ont un peu la baguette magique de Harry Potter. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, elles créent de la monnaie.
Ouais.
Si toi, tu vas emprunter de l'argent, 5000 euros à ta banque pour t'acheter un meuble ou une cuisine, et ben en fait, l'argent qui va être sur ton compte, c'est de l'argent qui est créé de zéro. On a mis 5000 et hop, l'argent est créé.
Qui n'existait pas avant.
N'existait pas avant, totalement, c'est de la création monétaire. Cette fois, ce n'est pas des pièces et des billets, ce n'est pas de la monnaie fiduciaire, c'est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire de la monnaie qui est sur les comptes bancaires. Mmh. Faut quand même savoir que cette monnaie scripturale, c'est quasiment 90% du total de la masse monétaire. Donc, on comprend que les banques commerciales sont un acteur décisif pour la quantité de masse monétaire qui circule dans la zone euro. Pour ton information, si tu empruntes 5000 euros, au fur et à mesure où tu vas rembourser tes 5000 euros, l'argent qui a été créé, il va être détruit. D'accord ? Donc il y a simultanément en permanence un mouvement de création monétaire quand les banques commerciales font des prêts et de destruction monétaire quand les clients remboursent leurs prêts.
D'accord.
Alors tu comprends bien que si on entre dans une période où ça ne va pas du tout, où les banques ne prêtent plus d'argent aux entreprises et aux ménages, eh bien on pourrait avoir une période où il y a plus de destruction monétaire que de création, et donc une diminution de la masse monétaire, et donc une inflation qui tomberait dangereusement à zéro, voire dans la déflation. D'accord ? D'où la nécessité d'inciter les banques commerciales à faire toujours plus de prêts. Sauf que ça n'a pas suffi. En fait, ça n'a pas suffi pour relancer l'activité dans la zone euro. Ça restait vraiment très mou. Donc, Super Mario, Mario Draghi, a sorti de son chapeau une deuxième mesure en 2015. Et cette mesure, ça s'appelle le quantitative easing. En français, assouplissement quantitatif. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est. Ça va encore rajouter une couche de complexité. J'en suis désolé, Mathieu. Pour comprendre ce que c'est, je vais passer par un petit détour et je vais faire un rappel de ce qu'on s'est dit dans les semaines précédentes. Tu te souviens, quand on a parlé des États qui s'endettaient massivement pour relancer l'activité, eh bien, ils ont des déficits. Ces déficits, ils vont les financer en empruntant sur les marchés financiers. D'accord ? Ouais. Et quand ils font ça pour emprunter, en fait, ils émettent un papier qui s'appelle une obligation d'État. Une obligation d'État, c'est un papier, c'est une reconnaissance de dette de l'État, en quelque sorte. Donc, toi, si tu achètes une obligation d'État, ça veut dire que tu as prêté de l'argent à l'État. L'État te remboursera au bout de quelques années, en attendant, il te verse des intérêts.
D'accord.
Sauf que ce n'est pas toi, Mathieu, qui achète des obligations d'État. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les particuliers.
Bah non. Bien sûr, oui.
C'est les banques, c'est principalement les banques commerciales qui achètent des obligations d'État. Donc, une fois que tu as pigé ça, tu sais que les banques commerciales, elles ont dans leur portefeuille plein d'obligations d'État. Eh bien, le quantitative easing consiste, pour la BCE, à aller racheter aux banques commerciales leurs obligations d'État. En échange d'argent liquide, de liquidité, c'est-à-dire pour simplifier, de monnaie scripturale. Donc les banques commerciales se retrouvent avec beaucoup de monnaie scripturale, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elles en font ? Eh bien, on espère qu'elles l'utilisent pour, encore une fois, prêter de l'argent à leurs propres clients, les ménages et les entreprises. Donc c'est toujours le même but espéré, relancer l'activité, ce qui permettrait de renforcer l'inflation et puis d'avoir une économie en meilleure santé. La BCE a fait ça entre 2015 et fin 2018 pour, en moyenne, je simplifie, environ 60 milliards d'euros par mois. Donc, wow. Si tu fais 60 milliards fois le nombre de mois entre 2015 et 2018, ça fait du monde hein, quand même. Hein.
Ouais, ça commence à faire une belle somme.
Ouais, ça fait des sommes assez colossales qui ont été balancées dans les poches des banques. D'où la question que je présume que tu te poses, ça a marché ou ça n'a pas marché cette histoire?
Bah, ce sera bien que ça ait marché quand même, non?
Ouais, parce que ça fait quand même beaucoup d'argent. Hein. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Bon, je vais te faire une réponse super technique, tu vas apprendre un mot très compliqué. Mm-hmm. Ça a marché coussi coussa.
Ah, c'est technique ça, effectivement.
C'est très technique coussi coussa. Ça veut dire oui, bon, ok, d'accord, ça a contribué à une amélioration de la situation économique à partir de 2015. Mais c'est loin d'être la seule raison. Il y avait plein d'autres raisons, notamment des raisons externes, qui ont contribué aussi à améliorer la situation économique. Sauf que ça n'a pas eu que cet effet-là, hein, le quantitative easing. Ça a eu aussi l'effet de faire monter les cours boursiers. La bourse a monté. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que les banques, là, avec tout le pognon qu'elles ont récupéré de la BCE, ok, elles ont prêté de l'argent en partie, mais une bonne partie de ces liquidités, elles les ont utilisées pour acheter des actions et des obligations d'entreprise en bourse.
Et investir. Et...
Donc, massivement, elles investissent, voilà, exactement. Elles placent, elles investissent pour avoir de la rentabilité. Et ça, ça fait monter les cours boursiers. Troisième effet, ça a aussi solidifié les comptes des banques. Bon, là, c'est des raisons très techniques, je ne vais pas revenir dessus, mais ça a aidé un peu à améliorer la santé des banques qui n'étaient pas extraordinaires après le krach financier de 2008. Bon, voilà, on en est là. Officiellement, ce quantitative easing s'est arrêté fin 2018 et devine quoi, il a repris en novembre 2019.
Qu'est-ce qu'il et a ouais.
Bah, on a Super Mario, là, tu sais, Super Mario, c'est quelqu'un qui aura laissé sa marque. Il a été en poste entre 2010 et fin 2019. C'est lui qui a vraiment changé un peu la manière de fonctionner de la BCE, qui a pris des mesures assez radicales, qui ne plaisaient pas aux traditionnalistes, on va dire, allemands, par exemple. Et juste avant de partir... fin 2019, il a décidé de relancer un plan de quantitative easing. Alors, pas énorme, hein, seulement 20 milliards d'euros par mois. Donc, sur une année, ça fait seulement 120 milliards d'euros. Parce qu'il estimait que c'était nécessaire, que l'économie était en train de se ralentir, etc. etc. Voilà. Donc, on est là aujourd'hui, et aujourd'hui que je vais placer début 2020, c'est-à-dire en janvier 2020. On est en janvier 2020 avec une BCE qui a, outre des taux directeurs toujours à zéro, donc des taux d'intérêt très bas, qui a aussi un programme de quantitative easing de 120 milliards d'euros pour l'année 2020. Et puis, on va s'arrêter là, Mathieu. Mais avec tout ça, on va pouvoir s'intéresser au plan qu'a mis en place la BCE quand nous est tombé dessus en mars le Covid et le confinement majeur. Voilà. Mais il fallait en passer par là pour vraiment comprendre de quoi on va parler par la suite et en quoi ça apporte un plus, en quoi est-ce que ça est efficace, etc., etc. Est-ce que tu as réussi à suivre, mon pauvre Mathieu ?
Je pense avoir saisi quelques outils qui me permettront de mieux comprendre effectivement ce que tu auras à nous expliquer la semaine prochaine. Ça reste quand même assez pointu comme sujet.
C'est vrai.
Ce que je comprends surtout, c'est qu'il ne faut pas que les prix diminuent. Et ça, je trouve ça étonnant. J'ai toujours pensé que ce serait génial si les choses coûtaient moins cher, la vie serait plus simple. En fait, non.
Ouais, tout à fait. C'est contre-intuitif, cette histoire-là. Après, on se dira, oh, les prix baissent, c'est génial. Non, c'est pas génial du tout. À partir du moment où les prix baissent, il y a des mécanismes psychologiques qui vont entrer en œuvre qui sont très simples. C'est-à-dire, toi, tu es un consommateur, tu es un ménage consommateur, ou moi, on voit les prix baisser. Qu'est-ce qu'on se dit? Oh, je vais acheter cette voiture, elle est pas chère. Non, au bout d'un moment, on réfléchit, on dit, ouais, non, mais dans 6 mois, elle sera encore moins chère. Donc, je vais attendre. Et donc, il y a un mécanisme psychologique qui va ralentir la consommation parce que les gens vont être dans un attentisme permanent de prix qui vont encore baisser. Donc déjà, c'est pas bon, l'activité se ralentit. Après, quand tu diminues l'activité, eh bien, tu vas avoir un PIB qui diminue également, qui se tasse, tandis que tes dettes, elles ne bougent pas. Ça veut dire que mécaniquement, ton endettement, il augmente en pourcentage de ton PIB parce que ton PIB se ralentit et même diminue. Donc, c'est un mécanisme absolument terrible parce que c'est extrêmement difficile de sortir une économie de la déflation. Je vais te citer un exemple. Le Japon est tombé en déflation au début des années 90. Eh ben, ce pays a eu en gros 20 à 25 ans de croissance quasiment à zéro, de récession, avec un endettement qui a explosé parce que le Japon, pendant 20 ans, il n'a pas réussi à se sortir de ce merdier de la déflation. Donc, le plus gros danger, en fait, c'est la déflation. C'est beaucoup plus dangereux que l'inflation. L'inflation, on arrive à la maîtriser, on a les outils. Voilà.
D'accord, bon. Eh bien, merci encore, coach. Prof Patrick, pardon, le coach, c'est le mardi. Prof
ah Patrick. Ouais, c'est une marque déposée, coach. Je ne vais pas piquer la marque déposée de mon collègue.
On se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, au revoir, chers auditeurs. Passez une bonne semaine et écoutez Radio Calade. Au revoir, Mathieu.
Très bonne journée, au revoir.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir, à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar et en matin. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus.
Et oui, il est passé dans nos poches, c'était les aventures extraordinaires d'un billet de banque, super morceau de Bernard Lavilliers. Je vous conseille de l'écouter à l'avenir jusqu'au bout avec ses belles paroles. Tout de suite, on retrouve notre prochaine invitée, c'est Martine Mérieux, céramiste. Bonjour Martine.
Bonjour.
Vous êtes avec nous aujourd'hui dans Ensemble sur Calade. Je voulais parler avec vous de vos activités de céramiste. Vous proposez des ateliers, notamment vous exposez au cours d'événements vos créations. Mais avant tout, céramiste, en quoi ça consiste comme métier?
C'est une vaste question. Je vais essayer d'être le plus court possible pour pas trop embêter tout le monde. C'est un métier déjà de passion. On travaille avec la terre et donc je travaille la porcelaine surtout. Je fais des pièces uniques puisque j'ai pas de production qui identique à chaque fois. Et ensuite, je transmets surtout ce que je peux à mes élèves. Et parce que j'ai des ateliers hebdomadaires et des stages, et je travaille aussi en milieu du handicap avec d'autres structures, également les écoles, voilà. Et bien sûr, j'expose mon travail, voilà.
La technique de la porcelaine, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste? C'est on donne une forme avec les mains, j'en ai aucune idée, et puis après on le met au four.
En fait, le travail est différent pour chaque céramiste. Hein. Il y en a qui vont tourner, il y en a d'autres qui vont travailler du modelage, il y en a d'autres qui vont travailler à la plaque, ce qui est mon cas. Après, il y a les cuissons, ça c'est identique pour tout le monde. Après, il y a l'émaillage. Ou il y en a qui vont plutôt choisir des patines. Ça, le travail est différent pour chaque céramiste. Le point de départ, c'est la terre. Après, chacun crée au fur et à mesure de son histoire et de ce qu'il a à dire avec cet élément-là.
L'émaillage, ça consiste en quoi? Je connais pas ce mot.
Alors la terre, en principe, on la cuit deux fois. Ça qu'on fabrique, on attend que ça sèche. Ensuite, on a une première cuisson et ensuite, on a une deuxième. Après cette première cuisson, on peut émailler. Donc, c'est un produit que l'on met sur la céramique et qui, sur la deuxième cuisson, va révéler les couleurs et au niveau de tout ce qu'on a mis. Alors, c'est très variable. Hein. Il y a des bleus, bien sûr, il y a plein de couleurs. Après, chaque potier va travailler son émail en fonction de son sujet, je dirais. Voilà.
Et vous, le travail de création, vous nous avez dit que vous ne faites que des pièces uniques. Comment est-ce qu'on crée? Comment est-ce qu'on se renouvelle quand on...
Comment est-ce qu'on crée? Moi, je crois au travail et à la passion. Je ne sais pas si on s'assoit sur une chaise en regardant le ciel, si ça vient tout seul. Je ne pense pas. C'est pas moi qui dis ça, c'est un monsieur très connu qui s'appelait Picasso qui avait dit ça à un journaliste en disant « Moi, monsieur, je travaille, je garde, je jette. » Et voilà. Donc après, c'est... Oui, c'est vraiment un travail... bon, après, on ne crée pas toutes les cinq minutes. On n'est pas des gens à part. Moi, je m'inscris complètement dans le quotidien de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que j'entends. Voilà, on n'est pas... quand les gens parlent des artistes, moi, je pense qu'on est des gens comme les autres. Voilà. On a simplement la grande chance de pouvoir travailler notre métier et la passion. Voilà.
Ouais. C'est le côté passion du métier qui est important pour vous. J'ai l'impression que ça reste...
Moi, j'engage que moi, là, bien sûr. Enfin, ceci dit, c'est moi que interviewez, mais c'est vrai que il y a peut-être d'autres personnes qui vous diront autre chose, bien sûr.
Et donc, vous créez toutes sortes d'objets, des paumes.
Je travaille sur des colonnes, moi. Je fais des grandes colonnes. Je travaille aussi de la pièce utilitaire. Mais j'essaie parce que j'aime bien la beauté de l'objet. Donc, voilà. Après, c'est en fonction de ce que j'ai envie de travailler ou ce qui va sortir. Voilà. Il faut se mettre devant sa table, prendre son kilo de terre et on y va, quoi. Voilà.
Et quand je vous demandais en quoi ça consiste votre métier, tout simplement, vous m'avez dit que vous transmettiez.
Tout le monde ne le fait pas. Moi, j'ai beaucoup appris en apprenant aux autres. D'une part, il faut quand même aimer les gens, avoir de la patience, avoir une compétence et les gens m'ont beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris mon métier aussi en enseignant. Voilà, c'est vraiment un échange. Ça nous donne l'occasion d'organiser des stages, travailler avec des écoles sur des projets. Moi, je travaille au foyer de Brianne à La Collinière, qui est un foyer de vie avec des projets. C'est aussi cet échange-là qui est intéressant. Moi, j'ai pas du tout envie de rester dans mon atelier à me regarder le nombril, c'est pas mon truc. Donc, du coup, c'est aussi c'est peut-être une corde, j'ai une chance d'avoir cette corde-là à mon arc, quoi. Voilà. En tout cas, j'ai énormément de plaisir, autant que de travailler moi-même. Même si c'est pas facile, parce que les gens sont pas faciles, mais moi je suis pas non plus, peut-être. Donc, voilà.
Même un novice, le fait qu'il va se poser des questions et vous poser des questions, ça va vous amener à avoir une nouvelle réflexion sur ce que vous faites, c'est ça?
Oui, c'est pas aussi tranché que ça. Non, en fait, moi, ce qui m'intéresse quand les personnes viennent à l'atelier, d'une part, on a une méconnaissance du travail de la terre. On pense toujours que c'est très facile, que tout le monde peut faire. C'est sûr que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fonction de ce qu'ils sont, de faire découvrir un petit peu tout l'éventail qui est devant eux, quoi, et ils peuvent utiliser plein d'éléments pour arriver à s'exprimer, quoi. Alors c'est sûr qu'ils vont pas ce qui est intéressant, c'est pas de faire une belle pièce. On fait pas 50 pièces dans l'année, c'est pas ça du tout le but. C'est travailler la matière et trouver un échange entre la terre et soi, et qui permet une expression, quoi, qui est pour ça. C'est très intéressant.
Et donc, vous proposez des cours effectivement à l'année, des cours pour adultes, mais aussi pour enfants. C'est la tranche d'âge, à partir de quel âge on peut commencer?
Alors, j'ai des ateliers hebdomadaires et des stages en week-end pour adultes. Et puis, les enfants, je les prends en période de vacances scolaires, parce que les enfants sont tellement... Avant, j'avais des ateliers le mercredi, enfin quand il y a Louis le mercredi, et ils sont tellement surbookés, les enfants, qu'ils ont tellement de choses à faire qu'au milieu de l'année, il fallait réaliser aliments, enfin les pousser. Moi, j'ai pas du tout envie de les pousser. Alors qu'en stage, je trouve qu'ils viennent deux jours, ils sont détendus, tout va bien et ça se passe très bien. On travaille sur des projets et ça devient très intéressant.
Ces ateliers, ils ont pu reprendre sur le mois de juin. Vous avez pu recommencer à
retrouver... J'ai recommencé, moi, dès le déconfinement. Donc là, on finit cette semaine. J'ai un stage de 5 jours du 4 au 8 juillet. Et puis voilà, on est surtout en train de préparer le marché de Poitiers, voilà, en ce moment. Voilà.
Alors oui, les événements au cours desquels vous pouvez exposer, faire découvrir votre travail, ces derniers mois, ils ont tous plus ou moins été...
Tout était annulé. Alors moi, à la galerie, j'essaie d'organiser 4 expos sur l'année. Il y en a une à Noël avec d'autres artistes. Il y a Atelier Révélé tous les premiers week-ends de l'année, puisque c'est à l'année. Et donc là, Atelier Révélé, c'est un groupement d'artistes du Beaujolais où on ouvre nos ateliers, on est 7 sur 7 villages et on travaille avec nos invités et on expose bien sûr tout notre travail de l'un et de l'autre. Et puis il y a d'autres expos comme les GEMA, mais les GEMA cette année c'est les Journées Européennes des Métiers d'Art, ça a été annulé, donc voilà, cette année ça a été un peu pauvre en expo, voilà. Et le marché de Poitiers qui devait se faire le 16-17 mai va se faire le 19-20 septembre, qui sera le week-end du patrimoine, voilà.
D'accord, et alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce marché des potiers?
On a 30 potiers sur Jarniou, avec des travaux proposés complètement différents. Ça peut être de la sculpture, ça peut être de la pièce utilitaire, alors dans plein de domaines, de la faïence, du grès, de la porcelaine. C'est un travail très, 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 très large. Voilà.
Ouais. Et je crois qu'il y a aussi une partie découverte où on découvre les œuvres, mais on peut aussi participer, non? Essayer de mettre la main...
Alors, il y a des animations. Il y aura une animation raku où les gens, le thème de cette année étant le mouton, donc les élèves ont fait plein de petits moutons pour que les personnes puissent venir émailler et ensuite passer à la cuisson.
Ouais.
Et ensuite, il y a aussi une démonstration de jarre à la corde par Gilles Durand, où il va monter une jarre devant les personnes et redéfaire voilà, pour montrer un petit peu les techniques de jarre à la corde, qui est une technique très ancienne.
Ouais.
Et ensuite, il y a aussi une cuisson en four typique et une cuisson primitive, voilà.
Très bien, donc tout ça, ce sera sur le marché des potiers qu'on retrouvera à
Jarniou. Ce sera sur le marché des potiers le 19-20 septembre.
Et une autre date aussi.
Le samedi après-midi, sous les Républiques, de 14h à 19h, et le dimanche de 9h à 19h.
Alors, voilà. il est 13h, c'est l'heure des informations, mais il y a une autre date, vous nous avez parlé des ateliers révélés.
Les ateliers révélés, c'est au mois d'octobre, c'est le 2, 3, 4 octobre.
Très bien, le premier week-end d'octobre, on pourra venir découvrir votre travail.
Voilà.
Merci beaucoup Martine Mérieux de nous avoir parlé un petit peu de vos activités. On vous retrouve sur votre site internet, sur les réseaux sociaux.
Oui. J'ai un site et puis on parle aussi il y a un site aussi sur Facebook pour le marché de Poitiers avec toutes les infos nécessaires, voilà.
Et les inscriptions pour les cours, si on est intéressé, ça se passe...
Là, c'est sur... faut m'appeler sur... sur mon site, il y a toutes les coordonnées, tout le téléphone, voilà.
Parfait, bien, c'est tout. Merci beaucoup Martine Mérieux et puis très bonne journée et bonne continuation.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Calade.
Il est 13h.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Et bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux qui étaient avec nous dans la première partie d'émission. Nous sommes bel et bien ensemble sur Calade. On va retrouver dans quelques instants Georges Botton pour sa rubrique de jazz traditionnel, mais la 11e. En fin d'émission, nous avons rendez-vous avec des lycéens du centre scolaire Notre-Dame de Villefranche. On va parler de la rentrée, de comment ça se passe et puis comment est-ce qu'ils ont vécu aussi cette période particulière ces derniers mois. Mais tout d'abord, eh bien, c'est mercredi. Aujourd'hui, le jour traditionnel des sorties ciné. On peut parler de sorties ciné aujourd'hui, puisque les cinémas ont réouvert lundi. Et pour parler cinéma avec nous, eh bien évidemment, c'est Vincent Pourageau de l'émission Cinérama. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Justement, la réouverture des salles, est-ce que vous avez pu déjà en profiter, vous ?
Alors moi, j'en ai absolument pas encore profité. Je pense que je vais y aller peut-être ce week-end, je ne sais pas. Bon, voilà, j'ai d'autres moyens de voir des films.
Voilà. Effectivement. Alors, chaque semaine, eh bien, vous nous conseillez des films, vous nous avez même parlé de festivals. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a intéressé ?
Eh bien, autant parler finalement d'un film. Alors effectivement, les salles de cinéma sont réouvertes et elles ont repris des films qui étaient déjà en salle avant leur fermeture. Mmh. Mais elles ont aussi pris des nouveautés. Elles sont très rares et il y a un film qui est une nouveauté, c'est Filles de joie. Ce film devait sortir le 18 mars, il n'a pas pu. Hein. Et donc, il est actuellement en salle, il est notamment au CGR de Villefranche. Et c'est un film de Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch, c'est un couple, hein. Et Filles de joie nous fait suivre la trajectoire de trois femmes, Axel, Dominique et Conso, qui se retrouvent le matin pour une destination qu'elles seules connaissent, hein. Elles se rendent dans une maison close de l'autre côté de la frontière en Belgique. Là, elles prennent les noms de déesses grecques, Athéna, Circé et Héra. Alors l'une, c'est une jeune mère de famille en phase de séparation, interprétée par la toujours exubérante Sarah Forestier. Une autre, c'est une jeune fille noire qui vit une relation à sens unique avec un homme qui se moque d'elle. Et la dernière, interprétée par Noémie Lovski, c'est une mère de famille qui est par ailleurs infirmière. Donc elle a déjà un travail. Hein. Alors si elle pratique la prostitution, c'est pour mettre du beurre dans les épinards, tandis que son mari, un Sergi Lopez un peu atavique, est condamné, lui, au chômage. Alors ce film est richement documenté, hein, il tombe jamais dans le misérabilisme, il suit donc le quotidien de ces trois femmes. Alors on sera autant dans leur foyer que dans la maison close, quand elles attendent le client, mais très rarement avec elles au moment des passes. Hein. Toutefois, les réalisateur n'élude pas la question de la chair, du désir, de l'amour et du mensonge en construisant un récit rythmé par une sombre histoire qui va unir ces trois travailleuses du sexe. Hein. Le film commence commence dans la pénombre et peu à peu s'éclaire. Voilà. Alors face à ces trois femmes, les rôles masculins sont laissés soit à des personnages veules, manipulateurs ou impuissants. Voilà, il faut le prendre comme tel. C'est vraiment un film qui met en avant des femmes. Voilà, Filles de joie, donc c'est un film solide avec une brillante interprétation à un bon trio de femmes. Voilà.
Très bien, avec des super actrices, Sarah Forestier et Noémie Lvovsky. Annabelle oui. Langrone peut-être un peu moins connue, mais...
Moi je ne l'avais jamais vue, mais effectivement, tout se passe bien. Puis en termes de mise en scène, c'est quand même rudement bien fichu. Ouais.
D'accord, et donc on peut le retrouver ce film à Villefranche
Oui.
Au CGR. Filles de joie que vous nous conseillez avec Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch, les deux réalisateurs.
Oui.
Qu'est-ce qu'on retrouve à 16h dans Cinérama pour l'émission du jour ?
Justement, on retrouve les deux réalisateurs qu'on avait pu rencontrer. Il y aura 5 minutes avec eux hein, pour qu'ils nous parlent de leur film. Et puis, moi, je vous ferai une chronique sur Béni, un film allemand, un premier film allemand que j'ai trouvé, mais vraiment, vraiment extraordinaire. C'est la trajectoire d'une fille violente. Et là encore, c'est sans pathos, sans misérabilisme. C'est vraiment fort. Un premier film, cette fois-ci suisse, Midnight Runner. C'est l'histoire d'un homme marathonien qui essaye de résister, qui tente de résister à ses pulsions. Mmh. Et puis The Hunt, dont j'ai parlé la semaine dernière, hein, la farce gore là, qui est sortie déjà lundi. Mmh. Et puis un premier film, encore une fois, Jeunesse sauvage, de Frédéric Carpentier, un film qui nous plonge dans le monde des voleurs, qui a été tourné à 7. Moi je ne l'ai pas vu, j'émets quelques réserves sur ce film, mais voilà, on peut le tenter. Et puis surtout, un documentaire qui s'appelle Be Natural. C'est l'histoire cachée d'Alice Guy Blacher. Et c'est Alice Guy Blacher, ça a été une réalisatrice majeure du cinéma qui a vécu pendant la période des Frères Lumière et de Georges Méliès. Sauf que elle est complètement passée à la trappe de l'histoire, alors qu'elle a inventé plein de formes. Et il y a une réalisatrice américaine qui l'a remis au devant de la scène en faisant un travail colossal, 9 ans de préparation pour ce documentaire qui vraiment, alors là, pour tous les amoureux du cinéma, et puis peut-être aussi pour ceux qui sont un peu fabulistes, ils peuvent regarder Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blacher.
Très bien, bon, ça a l'air passionnant. On retrouve donc tout ça à 16h dans l'émission Cinérama. Merci beaucoup, Vincent.
Eh bien, merci à vous et à la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine, très bonne journée. Vous nous proposez plutôt un drame aujourd'hui. On va se quitter avec Sand Severino. Lui, ce qu'il préfère, c'est les films de guerre.
Arme atomique, espion germanique, prince héritier, complice du KGB. Bourville ou Richard Burton, le gros général Patton, sont dans les films de guerre. Avion US, plein de napalm, hélicoptère noir, si semble le ciel du Vietnam. Des chars qui roulent sur des gens, chinoiserie sur grand écran. THX, t'es à chier. Colons anglais et portugais, film italien sur des bandits mexicains. De beaux officiers allemands, tirailleurs sénégalais. Entente cordiale et internationale, les films de guerre, c'est ce que je préfère. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. On dirait de la bande dessinée. On voit les prisonniers des bras arrachés. Quand même coucou derrière les barbelés. Pas rancunier les gars, merci, je vous rappellerai.
Pour nous faire croire que tout est calculé, ils nous apprennent les us du métier. Interversion d'uniforme pour approcher les
retardement qui pète pile au bon moment. Cintrés les femmes lieutenants ne sont là que pour la scène du nu. Tu sais l'amour sur la plage après 8 heures de lance-flammes, ça détend. C'était le bon temps. Les films de guerre, les figurants morts de rire, la gueule en sang. Aujourd'hui double cacheton qui tombe du pont. Le charnier, c'est beaucoup mieux payé. C'est devenu ça, mes films de guerre. C'est devenu ça, les films de guerre. C'est ce que je préfère, les films de guerre. Bombe à retardement qui pète pile au bon moment.
Bombe à retardement qui pète pile au bon moment. C'était San Severino qui nous chantait les films de guerre sur Calade.
Ensemble sur Calais.
Ensemble sur Calais.
Ensemble sur Calais.
Et bonjour Georges Botton, on te retrouve pour ta rubrique quotidienne, mais la 11e, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour Mathieu, bien écoute, ça va, il fait toujours beau, ça fait toujours plaisir, voilà.
Très bien.
Et toi ?
Eh bien oui, toujours heureux d'être au rendez-vous.
Toujours fidèle au poste, c'est bien.
Alors, quelle phrase nous as-tu dégoûté ?
Oh écoute, j'ai trouvé deux petites pensées sur Dieu le Père, tu vois. Il y en a une, c'est de Woody Allen, le grand cinéaste. Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Voilà, alors ça me rappelle une petite histoire. T'as un gars qui est dans une église et qui tous les jours prie avec beaucoup d'assiduité le bon Dieu pour qu'il gagne au loto. Et puis un jour le bon Dieu, il en a tellement marre de l'entendre réclamer des sous à ce pauvre monsieur, et lui dit, écoute, c'est bien gentil de me demander de te faire gagner des sous, mais il faudrait d'abord que tu joues. Bon, allez, ça c'est pas très intelligent, mais c'est comme ça. Et puis alors une autre phrase de Jacques Stenberg. Je rappelle que Jacques Stenberg, c'était un Belge, il est né à Anvers en 23, décédé à Paris en 2006. C'était un écrivain belge très prolifique et il plaidait surtout pour le style des nouvelles. On en a parlé déjà il y a le 13 mai exactement. Et il était francophone et son père était diamantaire, donc d'origine polonaise, et il est mort en déportation. Alors je pense que c'est ce drame familial qui explique l'humour noir de Jacques Stenberg. Et Jacques Stenberg a écrit la phrase suivante: comment croire à Dieu qui depuis le temps n'a même pas le téléphone. Voilà, fin de citation. Et puis alors, amis auditeurs, amis auditrices, bonjour. Je vais vous parler du morceau que j'ai programmé pour vous. Le morceau s'appelle Minor Swing, interprété par Django Reinhardt, qui fait un superbe solo de guitare. Django Reinhardt est accompagné, comme très très souvent, par Stéphane Grappelli au violon, Joseph Reinhardt, le frère de Django, à la guitare, Monsieur Viss à la guitare également, et Monsieur Vola à la basse. J'ai pas leur prénom en tête. Ce morceau, il est très sympathique, très agréable. C'est plutôt un hommage à Stéphane Grappelli et à Django Reinhardt, puisque en solo de guitare, il y a un solo qui dure de 0 minute 22 à 1 minute 32. C'est donc un temps long pour un solo. Et en solo de violon, par Stéphane Grappelli, 1 minute 32 à 2 minutes 48. Il y a un excellent accompagnement. C'est tout ce que je peux dire sur ce morceau que je trouve très agréable. Django Reinhardt, je vous en dis deux mots, c'était un phénomène. De 1926 à 1953, la date de son décès, l'année de son décès, il a enregistré plus de 1500 fois et il a composé dans sa carrière environ 200 morceaux qui, pour la plupart, sont superbes. C'était donc un très très grand musicien. Il n'a jamais interprété un solo de la même façon. Et sa liberté de musicien, génial, et peut-être d'ailleurs reflet de la liberté des gens du voyage, puisqu'il était manouche, Django Reinhardt, c'est sans doute c'est un sentiment qu'il avait dans le sang d'aimer voyager, donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait preuve de beaucoup de liberté dans sa façon de jouer de la musique. Ça a été une vie d'aventure et de mouvement, comme d'ailleurs beaucoup, beaucoup de musiciens de jazz, et je vais vous parler aujourd'hui, plutôt que de faire une biographie détaillée et longue, qui serait longue, d'un drame qu'il a eu en 1928, et il avait joué dans un cabaret, et en rentrant chez lui, dans sa roulotte, pardon, je cherchais le mot du véhicule, en rentrant dans sa roulotte, il entend un bruit bizarre, et c'est des fleurs artificielles qui brûlaient et qui mettaient le feu au véhicule. Sa femme qui était avec lui et qui était enceinte également est parvenue, à s'enfuir, mais elle avait les cheveux en feu, mais heureusement pour elle, c'est les seuls dégâts qu'elle a eus. Par contre, Django Reinhardt, il était encerclé par les flammes, il était sur le point de s'extirper de la roulotte, mais il s'est évanoui. Et donc son corps a été brûlé sur tout le côté droit, mais également sur la baie gauche. Il a été transporté à l'hôpital Lariboisière, et il a refusé que le chirurgien voulait lui couper la jambe droite. Il a refusé. Et la jambe gauche, la main gauche, pardon, décidément, je me mélange dans les dans les organes. La main gauche était paralysée sur deux doigts. Alors, après 18 mois de convalescence et de rééducation forcenée, Django Reinhardt a apprivoisé son handicap manuel avec beaucoup, beaucoup de courage. Je le dis ça pour les jeunes, quand ils ont des problèmes, les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il faut toujours se battre dans la vie. C'est une des grandes constantes de l'existence. Donc Django Reinhardt a rééduqué sa main à la guitare et il a éduqué la guitare à sa main. Son courage, et il y est arrivé par un grand courage, avec beaucoup de volonté et également, faut le dire, grâce à son immense talent de musicien, pour notre plus grand plaisir. Mmh. Alors Django Reinhardt, c'est une vie passionnante, on en reparlera une fois par petite touche si vous voulez. Alors amis auditeurs, amis auditrices, voici donc Mind on Swing par Django Reinhardt, et je vous dis à demain, en vous souhaitant une bonne journée. Je te dis à toi, Mathieu, à demain également.
À demain, Georges. Merci beaucoup et excellente journée à toi aussi.
Merci. Au revoir, Mathieu.
Au revoir. Immense morceau de Django Reinhardt, c'était Minor Swing et c'était le choix musical de Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et oui, nous sommes ensemble sur Calade. Et pour cette dernière partie d'émission, et ben c'est avec grand plaisir qu'il y a des gens, des vrais gens avec moi en studio. Derrière les micros, ils sont quatre, c'est des lycéens. Dans l'ordre, il y a Clémentine, Victoire, Angelina et Marceau. Des lycéens du centre scolaire Notre-Dame à Villefranche. Pour tout vous dire, ils viennent pour terminer un atelier radio. On devait faire un direct le 14 mars, si je ne me trompe pas, qui devait passer donc en direct depuis le lycée. On avait travaillé pendant plusieurs mois avec eux pour préparer cette émission. Et puis, quelques jours avant le direct, badaboum, les lycées, les écoles, les collèges ferment. Et on n'a pas pu faire l'émission. Donc, ils viennent aujourd'hui pour terminer le travail. Bonjour à vous, déjà.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on profite de votre présence dans les studios pour parler un petit peu du confinement pour les étudiants, pour les lycéens. Comment ça s'est passé? Est-ce que l'un de vous peut déjà nous raconter étape par étape comment est-ce que vous avez appris les choses? Comment est-ce que ça a commencé déjà pour vous?
Bah alors, personnellement, on en parlait beaucoup parce que tout le monde disait on va être en confinement. Après, il y a eu le discours de Macron, donc on l'a écouté. Mmh. Et du coup, bah, ils ont il a dit qu'on était en confinement. Donc ça s'est fait directement, on n'a pas eu le temps de réaliser. Donc au début, on n'a pas eu énormément de devoirs.
Ouais.
Et après, on a eu beaucoup de devoirs. Les profs nous envoyaient des emails, nous donnaient des choses à faire pour ne pas s'ennuyer.
D'accord. Et ouais, c'était du jour au lendemain, les lycées étaient fermés et tout le monde reste à la maison. Les cours, ça s'est mis en place. Est-ce que ça a été simple? Vous avez déjà les contacts des profs? Ils avaient déjà vos contacts pour vous suivre ou ça a mis du temps à se mettre en place?
On avait déjà par mail, mais après, c'était compliqué pour les visios aussi. Mmh. Et bah après, dès qu'on a pris le fil, bah...
Ouais. Ouais. Et ça demande quand même, les visios, ça demande quand même d'avoir du matériel. Il faut avoir l'ordinateur et la connexion Internet à la maison. Pour vous, ça allait? Vous aviez tout ce qu'il fallait?
Oui.
Ouais. Et travailler à la maison, est-ce que c'est simple?
Bah oui, c'est plutôt simple. Enfin, moi, je trouve que c'était plus facile que... en cours, parce que ce qu'on fait sur une heure et demie, on peut le faire en une demi-heure.
Ouais. Pour vous, ça a été plus facile qu'en cours d'être à la maison?
Personnellement, non, parce que j'ai pas réussi à m'organiser.
Ouais, pareil.
Ça a été assez compliqué avec tous les mails qui arrivaient d'un coup. Mmh. Donc il fallait faire progressivement, sinon on était débordés et c'était stressant.
Il faut bien faire au fur et à mesure. Moi, je me rappelle quand j'étais en vacances, en général, c'était pas des vacances, mais je veux dire, j'attendais la fin des deux semaines, je m'y mettais en trois jours. Là, il fallait faire au fur et à mesure, effectivement, des cours qu'on vous donnait. Et c'est peut-être compliqué, enfin, c'est compliqué. Moi aussi, j'étais en télétravail. Se mettre au boulot, à la maison, dans un cadre qui est habituellement est pas fait pour ça. Ça allait pour vous? Ça vous est sorti?
C'est quand même assez compliqué, mais ouais, il faut se mettre dans une pièce où il n'y a pas le téléphone, la télé. Et ouais, se mettre au boulot, ça c'était un peu compliqué, mais ça va.
Et donc là, on parle beaucoup de l'école et des cours. Il n'y a pas que l'école dans la vie. Il y a aussi le fait que bah, vous n'avez peut-être pas pu voir vos amis pendant deux mois. Comment vous avez réussi à garder le contact? On dit les jeunes, ils sont hyper connectés. J'imagine que ça s'est bien passé sur ce point-là quand même.
Bah, personnellement, oui, bah, on s'envoie des messages. Après, on a des amis dans notre classe, donc on s'aide pour le travail.
On s'appelait aussi, ouais. Ouais, on s'appelait en vidéo.
Ouais.
Et ce qui est compliqué, c'est plus de ne pas avoir la famille. Personnellement, c'est ça qui est
les proches. Ouais, effectivement, garder le lien. Et j'imagine que vous n'avez été jamais autant au téléphone ou derrière la vidéoconférence pour essayer d'avoir des nouvelles de tout le monde. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez suivi les informations, savoir quand est-ce que vous allez reprendre les cours? Est-ce que c'était simple de savoir la situation, comment ça se passait? Vous trouvez que c'était clair ce qui se passait autour de vous au niveau de l'éducation?
C'était quand même compliqué parce qu'on ne comprenait pas toujours toutes les informations. Moi, personnellement, je regardais beaucoup la télé le soir pour savoir où on en était. Mmh. Et c'était quand même compliqué parce que ça changeait en permanence. Ils nous disaient qu'on allait déconfiner à une certaine date, mais en fait, c'était reporté. On ne savait pas trop qui devait reprendre, quand. Et ouais, c'était compliqué.
Ouais. Et donc, vous suivez les infos à la télé, toi, tu nous as dit?
Moi, je regarde, ouais, le soir.
Le soir, le journal, c'était un peu le rendez-vous.
Le 20h, ouais.
Vous avez suivi comment, vous, aussi à la télé?
Oui, moi aussi à la télé, bah, le midi et le soir.
Ouais.
Moi, je regardais plus parce que ça, ouais, ça m'angoissait. Et du coup, je savais plus quoi croire ou qui croire. Mmh. Du coup, je regardais plus parce que c'était compliqué.
Et sur les réseaux sociaux, vous suivez aussi un petit peu les informations. Justement, on ne sait plus quoi croire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous connaissez les fake news. Vous avez vu des choses aberrantes comme ça qu'on a pu trouver
Aberrantes, non, mais on ne sait plus. Enfin, voilà, on ne sait plus quoi croire. Ouais. Mais aberrantes, je dirais pas ça.
Donc finalement vous avez quand même repris les cours petit à petit. Comment ça s'est passé? Vous avez repris depuis quand là?
Ça fait 3 semaines, non?
Oui,
2-3 semaines.
3 semaines, bah du coup il y a peu de monde qui ont repris, donc ça fait des petites classes. On a cours deux jours dans la semaine, le lundi et le jeudi, et bah c'est plutôt sympa parce que du coup oui, on est des petites classes. Bon, oui, c'est assez cool, quoi, comme ambiance.
Et c'est effectif réduit, alors ouais. Y a pas toute la classe.
Ouais, pas toute la classe. On est un par table, qui sont normalement des tables de deux, où on est par deux. Mm. Donc on est bien répartis dans toute la classe, on fait bien attention.
Et ça, vous avez une salle attitrée où vous arrivez le matin. Comment ça se passe? Ouais, parce qu'il y a plein de règles. J'ai pas forcément suivi toutes ces règles. Qu'est-ce qu'il y a justement comme règles d'hygiène sanitaire qui sont mises en place?
Bah déjà, il y a de la prise de température le matin.
Ah ouais.
Tous les matins. Et bah après, on se met du gel aussi en arrivant. Mmh. Et après, il faut le masque.
Ouais, on doit porter le masque dans la cour.
Toute la journée, le port du...
Ouais. Sauf en cours, on peut l'enlever quand on est
assis. Ouais.
D'accord. Et lavage de mains régulier. Et puis et dans la cour, comment ça se passe? Alors, il y a le fameux maître qui a respecté. C'est bien respecté autour de vous, entre nous. Vous trouvez que c'est facile à respecter déjà? J'imagine que c'est compliqué, au contraire, je trouve.
Ouais. On ne le respecte pas, pas
c'est
trop.
C'est compliqué, oui. Ouais, on a tous le masque, on essaie de faire attention, mais c'est toujours un peu compliqué.
Ouais, il y a des réflexes qui... Ouais. On se dit bonjour.
Ouais, c'est ça.
C'est difficile au début, ça fait bizarre, les premiers bonjours sans se serrer la main ou se faire la bise. Ouais. D'accord. Et donc la reprise des cours, et là depuis le 22 juin, normalement c'est la reprise pour tout le monde, pour tous. Ça, c'est le cas pour vous?
Non, pas pour les lycées.
Ah oui, pardon.
Donc, du coup, bah, on est toujours pareil, ça change pas.
D'accord. Et le reste du temps, vous nous avez dit 2 jours par semaine, le reste du temps, ça reste des cours à distance, par mail et visioconférence?
Oui.
Ça continuait? Et est-ce que, je me demandais, avec les profs, le fait de s'envoyer des mails régulièrement, de se voir en visio, votre relation avec eux, elle a peut-être changé? Peut-être qu'avoir un mail perso qui vous dit « fais cet exercice comme ça, des réponses », c'est peut-être plus simple que devant toute la classe, c'est peut-être plus facile de lui poser des questions, je sais pas.
Bah oui, c'est plus facile pour ceux qui sont timides, mais en même temps, c'est pas facile parce que quand on n'arrive pas à quelque chose, il peut pas nous expliquer comme quand on est en cours. Du coup, c'est différent.
Ouais, d'accord. Donc la reprise des cours, et les cours là, ça se termine bientôt, c'est la dernière semaine, c'est ça?
Nous c'est jeudi, ouais, je crois.
Il nous reste jeudi, on a fini.
Demain?
Ouais.
Et c'est terminé. Et enfin les vacances d'été.
Ouais.
Et donc la rentrée en septembre, on sait pas, vous savez pas comment ça va se passer encore?
Non, on sait pas trop.
Ouais, peu d'informations. D'accord. Bon, en attendant, et ben, pour se quitter, on va faire une petite pause musicale. On va écouter un dernier morceau dans cette émission Ensemble sur CAD. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné le point de vue d'étudiants, de lycéens. Vous êtes en seconde au centre scolaire Notre-Dame. C'est vous qui avez choisi le dernier morceau. Qui c'est qui l'annonce?
Et ben, c'est Folie de Jul.
Allez, c'est parti, on écoute ça tout de suite. Merci à vous.
Merci. Le regard qui tue, fait tourner la tête. Son corps, son visage, ses mots, sa voix, ses manières. J'ai pris l'habitude de lever sur les nerfs. Oh, mon cœur le prend pas mal en ce moment. J'ai la tête ailleurs. Tout seul, j'ai tout assumé tout seul. Ah, ils me font
les chocs, chocs, chocs depuis toutes ces années. Et je danse, danse, danse dans l'audit reprogrammé. J'fais gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. Je veux pas voir débouler les ennuis et la police. Et tu stop, stop, stop quand tu veux t'ambiancer. Et tu tasses, tasses, tasses pour voyager tout l'été. Monte pas trop ta vie, ça attire la jalousie. Les gens n'aiment pas te voir réussir, c'est la folie. Je fais des petits selfies. J'entends des poussettes. Oh, j'en ai marre, laissez-moi. Je veux pas savoir qui a fait quoi, qui a fait qui. Que ça me chauffe, chauffe. Que ça me chauffe. Que ça me chauffe, chauffe. Que j'ai les chocs, chocs. Que j'ai les chocs. Que j'ai les chocs, chocs. Et je les choque, choque, choque depuis toutes ces années. Je danse, danse, danse dans l'audit reprogrammé. J'fais gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. J'veux pas voir débouler les ennuis et la police. Et tu stop, stop, stop quand tu veux t'ambiancer. Et tu tasses, tasses, tasses pour voyager tout l'été. Monte pas trop ta vie, ça attire la jalousie. Les gens aiment pas te voir réussir, c'est la folie.
De Jules, un musicien qu'on n'entend pas souvent sur Radio Kélade. C'était le choix musical des lycéens qui sont venus avec nous pour nous parler un petit peu du confinement, du point de vue des étudiants, tout simplement. C'est la fin de cette émission Ensemble sur Kélade, que vous retrouverez en réécoute sur notre site internet www.radio-kélade.fr. Et si vous souhaitez participer à l'émission pour nous raconter ce que vous faites dans la vie, vos associations, votre entreprise, pour parler de toutes sortes de sujets, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer un message sur notre page Facebook Radio Kélade, ou bien nous envoyer un mail à contact@radio-kélade.fr, et on organisera ensemble votre passage à l'antenne. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, et puis à vous donner rendez-vous demain à 12h pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Kélade. Très bonne journée, à demain, ciao ciao.
Ensemble sur Kélade.
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 Ensemble sur Kélade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Kélade.